perkeleen tontot!
Yes, salut à tous, bienvenue sur Mike FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, votre émission métal en ce jour de début du Hellfest. Ça commence, alors c'est un peu triché, ça a commencé hier, on va en reparler dans quelques minutes, mais officiellement le Hellfest a ouvert ce matin pour 3 jours de musique métal avec un grand thème. Et puis c'est aujourd'hui également la fête de la musique, donc bien nous avons toutes les raisons du monde de célébrer notre musique préférée qui est le métal. Donc aujourd'hui, quelques nouveautés à vous proposer. Il y a 2 sorties notables en ce 21 juin. Et puis, tout à l'heure, interview avec un groupe dont j'ai parlé la semaine dernière. Un groupe qui nous vient du Finistère, qui nous fait du métal mélodique avec une imagerie steampunk. Un groupe qui s'appelle Tungsten. Des Tungsten, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je mets un D à la fin, n'importe quoi. Et tout à l'heure, nous serons donc en compagnie de Cédric, qui est guitariste et qui est aussi le chant masculin du groupe, puisque c'est une frontwoman qui mène la formation. Mais ça, on en reparle tout à l'heure, où on présentera donc leur nouvel album qui s'appelle The Lost Manuscript. Mais c'est pas tout, puisque on parlera également un petit peu du Hellfest, hein, puisque comme je le disais il y a quelques secondes, hein, ça y est, c'est officiel, le festival a ouvert ses portes. La cathédrale, j'ai envie de dire, de l'enfer qui est de nouveau offerte à ses disciples. C'est le 14e Hellfest qui se tient actuellement. Et qui exceptionnellement a ouvert son site dès hier pour accueillir pour la toute première fois en France et bien le festival américain Not Faced, qui a été créé en 2012 par le groupe Slipknot, une édition française à Clisson qui a donc vu se produire 10 groupes, dont Slipknot bien sûr, mais aussi Rob Zombie, Sabaton ou encore Amon Amarth. Ça a été un sacré préambule, hein, pour cette édition 2019 du Hellfest qui bat son plein depuis 10h30 ce matin pour une durée de 3 jours qui vont être marqués par des découvertes, des temps forts, des surprises. Et puis des adieux aussi, ceux de Kiss et de Slayer, mais pas ceux de Manowar qui devait avoir lieu ce soir et qui a en fait annulé sa prestation au dernier moment. Manowar, c'était quand même la tête d'affiche de la main stage ce soir, donc c'est un petit peu embêtant. Ils ont fait savoir ce matin qu'ils annulaient leur prestation et donc leur ultime concert en France, puisqu'ils devaient faire leurs adieux ce soir. C'est pas cool pour les fans. Le Hellfest a quand même trouvé une solution de repli et ce sera donc Sabaton qui va assurer le show, qui proposera un concert plus long que ce qu'il a proposé hier pour le Not Faced. Et voilà, c'est vrai que Sabaton, c'est un petit peu les héritiers de Manowar, donc c'est une place qui leur revient presque, j'ai envie de dire. Ça n'empêche que les fans de Manowar sont quand même très très déçus. Alors outre cette déconvenue, comme d'hab, les concerts vont s'enchaîner sur 6 scènes, les 2 main stage, la Temple, la Warzone, l'Altar, la Vallée. Et comme d'hab, eh bien c'est le métal avec un M majuscule qui sera à l'honneur, mais pas que, hein, puisque le punk et le rock en général seront également très très bien représentés avec une programmation des plus réjouissantes. Et je vous invite à aller voir le programme. Il y a notamment les Me First and the Gimme Gimmes, il y a les Vampass pour ce qui est côté punk. Enfin vraiment, c'est une très belle programmation et qui est tellement dense qu'il serait impossible d'en faire le tour en si peu de temps. Donc voilà, hein, c'est d'ailleurs ce qui est génial avec le Hellfest, c'est qu'il y a une telle variété de styles et de groupes que chaque rocker, chaque métalleux, ben, va y trouver son moment à ne pas manquer. Dans la cathédrale de l'enfer, chacun est convié à communier au son des accords du diable, et c'est sans doute, hein, ce qui a contribué à forger la réputation de ce grand rassemblement qui est devenu incontournable et qui fait presque de Clisson la capitale mondiale du métal. D'ailleurs, ce matin, il faut savoir que la terre, elle a tremblé, hein, dans l'ouest de la France, donc tout près de Clisson. C'est à se demander si c'est pas les portes de l'enfer qui seraient ouvertes. Alors, pour finir juste sur cette petite parenthèse Hellfest, j'aimerais juste partager une petite déception. Moi, je trouve que les grands oubliés de cette année, bah, c'est les Tambours du Bronx, parce que bah, leur show Womp, il aurait vraiment mérité d'être programmé. Surtout que Renaud, Stéphane Murier, Renato Di Folco, les trois chanteurs du projet, sont tous les trois sur place. Leur groupe Lofofora, Le Bal des Enragés et Trépalium étant à l'affiche de cette 14e édition. Il y a Francky qui est là-bas également pour faire un petit peu de promo. Donc c'est un petit peu dommage parce que franchement les Tambours auraient eu toute leur place sur cette 14e édition. Donc bah, j'espère bien voir leur nom apparaître sur l'affiche l'an prochain. Sur ce, il est le temps de lancer les hostilités de cette émission. On reparlera un petit peu du Hellfest un peu plus tard. Mais tout de suite, on va s'intéresser à la première sortie de ce 21 juin. Et attention, c'est d'une nouvelle sensation qu'il s'agit. C'est le groupe Bokassa qui sort donc aujourd'hui son album Crimson Riders. Alors Bokassa, c'est un groupe qui vient de Norvège, de Trondheim, qui existe depuis 2013, qui a été initialement fondé par Jørn Karstad au chant à la guitare et puis Olav Dokes à la batterie. Ensuite, ils vont être rejoints 3 ans plus tard par Bard Linga, un bassiste, et le groupe tire bien évidemment son nom de l'empereur, ou devrais-je dire peut-être le dictateur de Centrafrique, qu'on avait accusé à l'époque de cannibalisme. Alors, Bokassa, le groupe, c'est du stoner punk, un style autoproclamé par le groupe lui-même. Et en fait, ben, vous aurez certainement compris que Bokassa fusionne du metal, du hardcore, du punk et du stoner rock. Alors, hormis ce nouvel album qui paraît aujourd'hui, Bokassa a aussi à son actif 2 EP et puis un premier album qui s'appelle Divide and Conquer, qui est sorti en 2017. Et puis cet album-là, un jour, il est tombé entre les oreilles d'un certain Lars Ulrich, le batteur de Metallica, qui a immédiatement succombé à la musique du trio norvégien au point de le programmer dans son émission de radio et de déclarer que Bokassa était devenu son groupe préféré. D'ailleurs, Lars Ulrich les kiffe tellement qu'il les a conviés à ouvrir pour Metallica avec les Suédois de Ghost sur leur actuel World Wire Tour qui s'est arrêté au Stade de France il y a pas longtemps, hein, le 12 mai dernier, où Bokassa paraît-il assuré et conquis le public français. Alors depuis, le groupe est devenu le chouchou des médias spécialisés. Son nouvel album Crimson Riders bénéficie d'une sacrée promo. Et puis ces louanges, en fait, elles sont tout à fait méritées, parce que franchement, alors si le nom du groupe, pour tout vous dire, m'a pas franchement donné envie d'écouter le disque, bah je dois avouer que j'ai adoré la musique. Les 9 chansons qui composent Crimson Riders, elles sont directes, catchy, elles sont bien rentres dedans. On y retrouve l'urgence et l'efficacité du punk et du hardcore avec la lourdeur du stoner, et bah ça envoie quoi. C'est un petit peu comme si Suicidal Tendencies avait rencontré Kyuss, et je sais pas, c'est vraiment très très bien. À E3, les Norvégiens, ils font un boucan d'enfer, ils le font bien. Donc je pense qu'il est fort à parier qu'on va beaucoup entendre parler de Bokassa dans les mois à venir et que le jeune combo va fouler la scène de tous les festivals l'an prochain. Voici un extrait de Crimson Riders qui paraît donc aujourd'hui avec un morceau qui s'appelle Moss Bracer Incorporation. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. Land C'était Bokassa à l'instant sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Milo d'un extrait de l'album Crimson Riders qui sort aujourd'hui. Et le titre que vous venez d'écouter, c'est Moss Bracers Incorporation. C'est vraiment très très bien, ça envoie sévère. Moi j'adore, j'ai vraiment pas aimé le nom du groupe, mais j'ai vraiment adoré la musique. Comme quoi, faut toujours aller outre ses appréhensions et puis outre ce qui peut paraître, quoi. C'est vraiment très très bien, c'est un trio et vraiment... ils font un boucan comme s'ils étaient 5 ou 6. Bokassa, donc, je vous invite vraiment à aller découvrir leur musique. Si Lars Ulrich les kiffe, c'est quand même que, voilà, il y a du fort potentiel chez eux. Et je vous rappelle qu'ils ouvrent en ce moment pour la tournée mondiale de Metallica. Sacré rêve de réaliser pour ces trois gamins, bah, qui, comme beaucoup de kids, ont grandi en écoutant Metallica, bien évidemment. La deuxième sortie du jour, alors là, c'est pas des petits jeunes, c'est même des vieux de la vieille, j'ai envie de dire, c'est Hollywood Vampires qui sort aujourd'hui un album intitulé Rise. C'est leur deuxième album. Alors, c'est qui Hollywood Vampires? Le nom vous dit peut-être quelque chose. Ils étaient pour le coup au Hellfest l'an dernier. C'est un groupe qui nous vient de Los Angeles, qui existe depuis 2015. D'ailleurs, c'est pas un groupe, je vous dis des bêtises. Hollywood Vampires, c'est un all-star band qui a été créé par Alice Cooper, par Joe Perry, donc le guitariste d'Aerosmith, et par l'acteur Johnny Depp. Eh bien, pour rendre hommage à toutes les stars du rock qui sont mortes dans les années 70 suite à des excès divers, que ce soit de drogue ou d'alcool. D'ailleurs, le nom du groupe, il fait référence à The Hollywood Vampires, qui était un club de Los Angeles, qui a été fondé dans les années 70 par Alice Cooper, dont la vocation première, eh bien, était de boire jusqu'à plus tenir debout. Et à l'époque, ce mythique drinking club a vu défiler Kiss Moon, Ringo Starr, John Lennon ou encore Mark Bolan. Donc vous voyez, il y avait quand même que du beau monde qui allait se torcher la tronche, hein, faut le dire c'est le cas, dans ce fameux club Hollywood Vampires qui n'existe plus depuis. Alors pour le style du groupe, c'est du hard rock, du rock and roll. On peut préciser que outre le trio qui a fondé le groupe, Hollywood Vampires comprend également des membres de session pour le studio et puis des musiciens de tour. Et par exemple, il a vu passer en ses rangs Duff McKagan et Matt Sorum des Guns N' Roses. Sinon, pour ce qui est de sa discographie, c'est en septembre 2015 que Hollywood Vampires avait sorti son premier album éponyme, qui était constitué essentiellement de reprises, avant de faire quelques jours plus tard ses débuts sur scène dans un club d'Hollywood. Alors, il faut être honnête, hein, malgré l'excellent casting d'invités, dont Dave Grohl, Slash, Christopher Lee et j'en passe, cette première production studio des Vampires d'Hollywood, c'est pas une franche réussite. Pourtant, ça n'a pas empêché le disque de connaître un succès commercial relativement important. Et concernant ses prestations scéniques, eh bien là encore, les avis sont partagés, hein. Si on prend l'exemple, j'en parlais tout à l'heure, du Hellfest l'an dernier, alors il y a certains qui étaient conquis par la performance du trio, et puis d'autres étaient beaucoup moins enthousiastes sur l'utilité de la chose, si ce n'est encore une fois le casting et voir réunis sur scène Alice Cooper, Joe Perry et Johnny Depp, quoi. Alors peu importe, hein, puisque l'icône du shock rock, la superstar hollywoodienne et le guitariste ont décidé de continuer à s'éclater ensemble. Ils sont même passés aux choses sérieuses, hein, avec Rise, ce nouvel album, qui, contrairement à son prédécesseur, contient 13 compos originales pour seulement 3 reprises. En ce qui concerne sa genèse, c'est sans aucune pression que Rise a été composé et enregistré. Ses titres ont été écrits individuellement par les 3 membres qui ont apporté chacun leur patte au projet. Quant à la production, elle est signée Tommy Erickson, qui est le guitariste et le bassiste d'Alice Cooper, mais qui est également connu pour son travail de producteur avec des très grands noms comme Lou Reed, Meatloaf, donc c'est pas n'importe qui. Et donc Rise, il a été enregistré dans plusieurs studios, dont le mythique Hansa Studios, où David Bowie a enregistré sa trilogie berlinoise. Voilà, vous savez tout sur ce nouvel opus d'Hollywood Vampires qui, sans être le disque du siècle, est quand même plutôt agréable à écouter et beaucoup plus réussi que son prédécesseur. On en écoute un extrait avec le titre Who's Losing Now, et je sais pas, moi je dirais bien que c'est Alice Cooper qui l'a écrit celui-là.
The acid priest, all alone with his tweets. Recycled from the pageantry of forever creeps. Gallantry guaranteed, chivalry, pig disease, clergy sleaze on their knees, begging please for his own reprieve.
All the things you don't say. Stumbling through the speeches that preaches on the blog. Pretty bride, DSI, great divide, classified, winning by a landslide. What a ride.
Everything you don't say.
Losing Now des Hollywood Vampires à l'instant sur Back FM, extrait de leur nouvel album Rise qui paraît aujourd'hui. Le groupe donc fondé par Alice Cooper, Joe Perry et Johnny Depp, avec ce morceau qui est très dans l'esprit de ce que sait faire Alice Cooper, et on retrouve aussi quand même le son un peu d'Aerosmith. C'est vraiment très sympathique ce morceau. L'album est plutôt sympa, je vous le conseille, hein. Le premier était avait pas peu d'intérêt, celui-ci est quand même plus réussi et ça laisse espérer de beaux concerts à venir pour les Hollywood Vampires. Il est temps de passer à l'interview de la semaine et aujourd'hui ce sera Tungsten qui sera à l'honneur avec l'album The Lost Manuscript qui est sorti le 24 mai. Donc Tungsten, groupe du Finistère qui nous propose un métal mélodique moderne qui évolue dans cet univers steampunk. Donc steampunk, mouvement culturel qui mêle esthétique et technologie du 19e siècle avec des éléments de science-fiction, hein, j'en avais parlé un peu la semaine dernière. Groupe qui a donc deux albums à son actif et qui a un univers assez passionnant, qui a fait entre ces deux albums une progression mais absolument hallucinante. Donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui avec Cédric qui est chanteur-guitariste du groupe. Mais avant de le retrouver pour détailler un peu tout ça, je vous propose de se mettre dans l'ambiance hein, en écoutant un extrait de cet album. Et on va écouter le morceau Wandering Around the World qui est en fait le premier titre que le groupe a publié en vidéo sur YouTube. Très bon titre qui va bien nous donner un peu la couleur de l'album. C'est parti, tout de suite, Tungsten.
I don't know where to
métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load si vous nous rejoignez. À l'instant, c'était le titre Wandering Around the World du groupe Tungsten. Il s'agit d'un extrait de leur deuxième album qui s'appelle The Lost Manuscript, qui est paru le 24 mai. Et pour nous le présenter, eh bien, j'accueille Cédric, qui est chanteur guitariste du groupe. Salut Cédric.
Salut, ça va ?
Eh bien, très bien. Bienvenue dans Check Me Load.
Merci de me recevoir surtout.
Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui, donc pour nous présenter Tungsten et puis pour nous présenter ce nouvel album. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse direct un petit peu plus ample connaissance. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né Tungsten, nous présenter son line-up et puis nous dire un petit peu quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors Tungsten, ça a commencé en 2015 où par petite annonce, en fait, moi, je cherchais à remonter un projet, un groupe métal dans le Finistère.
D'accord.
Et puis, j'avais trouvé un bassiste qui était intéressé aussi. On cherchait à monter un projet un peu à la In Flames à l'époque.
Ok.
Et puis, on trouvait pas de chanteur. Et le bassiste a ramené une copine, donc Madeleine, hein, qui a fait des tests. Et puis, ça a accroché tout de suite, tant humainement que musicalement. Et puis, on a continué comme ça. Et puis, voilà, ça, c'est la création du groupe. Et donc, assez vite, en fait, donc ça, c'était juillet-août 2015. On a essayé de se focaliser assez vite sur composition et puis et live. Donc, en octobre 2015, donc juste quelques mois après, on fait notre premier concert.
D'accord.
Et ensuite, on a voulu aller un petit peu sur du visuel, travailler un peu avoir une image et puis commencer à travailler les réseaux sociaux. Et donc, on a sorti notre premier clip, qui a été enregistré par Nicolas Hervoche, qui travaillait entre autres avec Merzine dans la pointe Finistère. Et donc, en fait, on a aussi accumulé un petit peu d'expérience sur tout ce qui était tournage, montage. Et donc, par la suite, on a sorti notre album, notre premier album, qu'on a enregistré nous-mêmes, mixé, masterisé nous-mêmes. On a aussi tourné nos clips nous-mêmes,
ouais.
avec deux clips qui sont sortis à la suite de ce premier clip sur le premier album. Puis là, on arrive quasiment en 2019, on a enregistré ce deuxième album nous-mêmes aussi. On a tourné ce premier clip sur l'album Wandering Around the World aussi avec nos propres moyens.
D'accord, qu'on vient d'écouter.
L'album est sorti il y a quelques jours.
Alors, Tungsten, c'est un groupe de métal mélodique, donc mené par une frontwoman. C'est un groupe qui évolue dans un univers steampunk. Et musicalement, en écoutant vos albums, j'ai un petit peu pensé à des groupes comme Lacuna Coil, Amaranth ou encore à Within Temptation sur ses dernières productions. C'est quoi les influences musicales des membres de Tungsten?
Alors, il y a plein de choses. Clairement, Lacuna Coil fait partie des choses qu'on a commencé, des groupes qu'on a commencé à écouter, sur lesquels on a vraiment bien accroché quand on a commencé à bosser avec Tungsten aussi pour avoir des groupes un petit peu dans des styles similaires.
D'accord.
Et puis pouvoir un petit peu voir ce que faisaient les autres groupes. Après, il y a, je pense, pas mal aussi l'influence d'In Flames.
Ouais.
Donc il n'y a pas de chant lyrique déjà, donc c'est vrai qu'on n'essaye pas du tout de se caler sur des groupes comme Nightwish par exemple. On est vraiment sur de la voix claire, on voit de gorge. Et du coup, c'est vrai que ça donne une identité qui est un petit peu différente, avec une voix qui est assez douce et qui s'oppose à, justement, moi, ma voix qui est un petit peu plus caverneuse, si on peut dire. Mm-hmm. Et puis, une rythmique derrière qui est assez chantée, quoi.
Et en ce qui concerne tout l'aspect visuel, donc inspiré du steampunk, donc que vous soignez également tout particulièrement, c'est quoi vos influences? Est-ce que ça vient plutôt de cinéma, littérature, jeux vidéo?
Alors ça s'est fait petit à petit. En fait, on avait trouvé le nom du groupe et puis le nom du groupe, le Tungsten, la façon dont on l'écrit, il y a un côté un petit peu métal.
Ouais.
Et du coup, petit à petit, en se disant il faut aussi qu'on soigne l'aspect visuel, on est arrivé sur des costumes qui étaient un petit peu dans ce style-là. Et donc ça s'est fait petit à petit, et puis à un moment, on a décidé vraiment, on avait trouvé ce mouvement qui est le steampunk, et puis on s'est dit, finalement, ça fait assez bien à l'image qu'on veut en tout cas donner. Et donc on est allé à fond là-dedans.
D'accord. Votre nouvel album, c'est The Lost Manuscript. Il est paru, donc tu l'as dit, le 24 mai. Pour être honnête, avant de préparer cette interview, je connaissais pas votre musique. Donc j'ai écouté vos deux albums et waouh, quelle évolution entre Season 1 et ce nouvel album. Alors que ce soit la puissance, les arrangements, les parties de chant, que ce soit le chant féminin ou le chant masculin, qui sont plus variés, mieux maîtrisés. Je trouve que le disque est vraiment très abouti et j'ai l'impression que vous avez fait un travail de titan, non?
Ouais, ben alors c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup de choses. On a travaillé, comme tu disais, les voix beaucoup.
Ouais.
Alors surtout moi personnellement sur tout ce qui était gros, les screams. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc, quand je suis arrivé, quand on a commencé Tungsten, je me suis dit, mais le temps de comprendre la technique, de la travailler, le premier album était déjà enregistré. Donc, on l'a fait un petit peu avec ce qu'on savait faire à l'époque.
Ouais.
C'est vrai qu'en travaillant de manière un petit peu plus intensive, là, sur le rendu, on en est beaucoup plus content. On a changé de batteur, en tout cas. Ce qui nous a permis d'avoir un batteur qui était plus technique. Qui permettait d'aller sur des rythmiques qu'on pouvait pas jouer avant. Et donc voilà, il y a une évolution qui est technique, même si on essaye un peu de cacher le but du jeu. C'est pas forcément qu'on nous voit comme des super techniciens, parce que déjà c'est pas forcément le cas. Mais cette technique qu'il y a sur cet album-là, qui nous permet justement d'amener de la syncope, d'amener un peu plus de brutalité, on essaie vraiment aussi de le gommer sur justement des mélodies qui vont être assez facile, qui vont bien rentrer dans le crâne, et puis amener aussi de côté un petit peu.
Alors, l'écriture et l'enregistrement de cet album, ils se sont faits dans des conditions un petit peu particulières, j'ai cru comprendre, avec le voyage de votre chanteuse, hein, qui était partie faire un voyage en bateau. Raconte-nous comment ça s'est passé pour bosser. Est-ce que cette absence, ce voyage, a eu un impact sur cet album?
Alors, en fait, la raison de cette sortie-là, c'est justement le fait que Madeleine partait un an en voyage en bateau. On avait préparé, en fait, son départ. Donc, on savait qu'elle allait partir un an. Elle est partie en bateau avec du matériel pour s'enregistrer. On avait prévu qu'elle reviendrait pour enregistrer l'album aussi. Et donc, on a travaillé comme ça. Donc, moi, j'amène les compos. Ensuite, on les retravaille tous ensemble. Donc là, on a pris, il y a eu à peu près 2-3 mois de phase de composition. Derrière ça, on a fait 6 mois d'arrangement, donc on a monté une pré-prod.
Ah oui, quand même.
On a tout enregistré. On a travaillé le son, on a travaillé les arrangements. Donc on a vraiment déstructuré les morceaux pour les refaire, en fait. Et suite à ça, on avait une maquette qui était très proche, finalement, du rendu final. On a travaillé là-dessus, on a enregistré, et puis c'est comme ça qu'on a produit l'album. On a tout fait nous-mêmes, en fait.
D'accord.
Ça s'est fait vraiment assez naturellement en suivant les étapes que je viens de décrire.
Alors ce nouvel album, donc il a été accompagné d'une première vidéo, hein, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la vidéo de Wandering Around the World, qui nous donne quelques clés un petit peu sur ce que raconte l'album. Est-ce qu'on peut parler de concept?
Alors oui, c'est une question qu'on a beaucoup, en tout cas qu'on retrouve assez régulièrement sur le fait que ce soit éventuellement sur cet album. Alors ça n'a pas été fait vraiment dans ce sens-là. En fait, on s'est dit assez vite qu'il fallait que cet album raconte son histoire avec sa cohérence. Parce qu'on essayait aussi de mettre en place cette image simple, d'avoir un environnement qui était un petit peu contrôlé, qui était cohérent. Et donc on n'a pas cherché à faire un concept album. C'est plutôt le concept derrière le groupe qui a un peu dicté cet album sur un sujet, en fait, qui est un fil rouge tout au long des morceaux.
Et est-ce qu'on peut en dire quelques mots, justement, de ce fil rouge qu'on retrouve un peu tout au long?
Oui, bien sûr. Donc, du coup, le fil rouge, en fait, c'est un couple dont la femme va tomber malade. Elle va mourir, donc c'est assez vite dans l'histoire. Et son mari va essayer de la ramener à la vie en trouvant un manuscrit on tient des formules pour ramener les morts à la vie. Et puis voilà, donc ça décrit un petit peu les différentes phases par lesquelles le personnage principal va passer. Et puis il va finir par la ressusciter. Et puis après, il faut écouter l'album et puis lire les paroles pour connaître la fin. Mais
bah oui.
Voilà un peu le film.
On n'en dira pas plus, on va laisser à nos auditeurs le plaisir d'aller découvrir tout ça, parce que c'est vrai que sinon ça n'a plus d'intérêt, c'est un petit peu dommage. Alors pour juste rester 2 secondes encore sur la vidéo, elle a en partie été tournée dans un château dans le Finistère, donc chez vous. Hein. J'ai pu remarquer que vous mettiez souvent en avant votre patrimoine à l'honneur dans les vidéos. C'est quelque chose d'important pour vous d'être en quelque sorte des ambassadeurs pour cette région magnifique qu'est la Bretagne?
Alors effectivement, on essaie toujours de... autant que possible, en tout cas, de tourner dans le Finistère et de mettre en avant le patrimoine local. On l'avait fait sur le tout premier clip, où on tournait dans un vieux théâtre élisabétain qui est probablement un des derniers en France qui reste.
Ouais.
Alors qu'il est en ruine, mais en tout cas, on voit encore une partie du théâtre. Sur le deuxième clip, on avait tourné au Mont-Saint-Michel de Brassard, dans le Barret, qui est une sorte de c'est une colline qui est assez sympa, avec une vieille chapelle en haut. Donc c'était soumis à autorisation départementale. Enfin, c'était un peu le bazar. Ça avait été, le tournage avait été assez compliqué, on va dire.
D'accord.
On a vu 300-400 personnes qui avaient voulu visiter le Mont ce jour-là.
Ah oui, en s'embêtant.
Ouais. Et on n'avait pas le droit de leur interdire l'accès. On avait juste le droit de contrôler un petit peu leur déplacement. Donc ça avait été un peu galère. Mais on les voit pas à l'image. Mais c'était assez rigolo. Et donc le troisième clip, c'était dans une forêt dans les Montbarrés, donc on finit là aussi. Et donc là, on voulait repartir sur ce nouvel album aussi avec en tout cas un patrimoine qui venait de la Bretagne. Déjà parce que ça nous permet de mettre en avant le patrimoine local, mais aussi parce que ça nous permet d'éviter de faire 600 km pour shooter des scènes et éventuellement avoir à y revenir si c'est un problème. Donc c'était un petit peu ce qu'on cherchait. Et puis on a envoyé plein de lettres, enfin plein de mails à différents châteaux, et il se trouve que le château de Kerjan, la personne qui gérait l'accès à ce château-là, c'est un état d'eux.
Ah bah c'est impeccable.
Ça a énormément facilité les discussions. Ça devient facile, quoi.
Le clip est vraiment magnifique. C'est une très très belle vidéo et j'invite tous nos auditeurs à aller le découvrir si ce n'est déjà fait sur YouTube. Hein.
Merci beaucoup.
Alors l'album, il est dans les bacs depuis quelques semaines, pas très longtemps, depuis fin mai.
Depuis le 24 mai, ouais.
Du coup, maintenant, il est temps d'aller le défendre sur scène. C'est quoi vos prochaines dates?
Alors là, on joue le 22 juin, on joue avec les Ramoneurs de Menhir à Guingamp.
D'accord.
Donc fête de la musique, événement gratuit sur une grosse scène dans le grand centre de Guingamp. Le 29 juin, on fait une autre fête de la musique un petit peu plus proche de Morlaix, dans une ville qui s'appelle Plouvorne. Donc aussi en scène extérieure, je crois 22h, quelque chose comme ça.
Ok.
C'est l'heure en plus idéale. Le 5 juillet, on rejoue un peu plus proche de Brest, et le 6 juillet, on ne sait pas.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des dates qui se profilent un petit peu dans le reste de la France?
Alors, pour l'instant, ça reste localisé en Bretagne. On essaye d'organiser quelque chose sur Paris.
Ok.
Le problème pour l'instant, nous, c'est vraiment d'avoir les contacts en dehors, en fait. On commence à être connus un petit peu en Bretagne, mais c'est vrai qu'en dehors de la Bretagne, c'est toujours dur d'aller démarcher.
D'accord.
Mais on cherche, c'est vraiment un des objectifs cette année, c'est de sortir vraiment de la Bretagne.
Et cette journée de promo devrait normalement y contribuer, hein, je pense.
Oui, bah, c'est ça, ouais. Du coup, la journée de promo risque déjà va permettre de parler du groupe et puis de nous faire connaître un petit peu plus largement en France. Et après, c'est vrai qu'on est prêt, on est vraiment prêt à jouer, quoi. C'est un des objectifs cette année et puis l'année prochaine. Ouais.
En tout cas, merci Cédric de nous avoir présenté Tungsten, de nous avoir présenté votre nouvel album qui, on le rappelle, s'intitule The Lost Manuscript. Il est disponible en version physique, en version numérique et en streaming, bien évidemment. On peut retrouver toutes vos dates sur la page Facebook du groupe. Vous avez un site internet aussi?
Ouais, tungstenofficial.com.
Voilà, donc on vous trouve assez facilement sur le net. Et bah, justement, on va se quitter en musique avec un nouvel extrait de cet album. Et j'ai choisi le morceau This Morning of November qui ouvre le disque. Est-ce que ça te va?
Ouais, c'est parfait.
Et ben, c'est super. Merci encore, Cédric. Bon courage pour la journée de promo et puis longue vie à Tungsten.
Et ben, un grand merci à toi, Laetitia.
Salut.
Au revoir.
c'était Tungsten à l'instant avec le titre. J'ai perdu le titre, figurez-vous. C'est pourtant moi qui l'ai choisi. Hein. This Morning of November. Voilà, je connais que celui-là. En plus, c'est mon préféré de tout l'album, donc c'était impardonnable. En tout cas, c'est un extrait de The Lost Manuscript. Et donc, si vous venez de nous rejoindre il y a quelques minutes, on était en interview avec Cédric, qui est guitariste et qui est également la voix masculine de cet album. Et voilà, je voulais juste m'excuser pour la qualité de l'interview qui était pas toujours très bonne. On n'entendait pas toujours très très bien. C'est vrai que la communication téléphonique était pas extrêmement bonne, donc désolé si vous en avez loupé des morceaux. L'interview sera mise en podcast en début de semaine prochaine, donc peut-être la réécouter au casque où on entendra un petit peu mieux. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Reprenons la suite de l'émission. J'espère que je vais plus bugger, hein, que tout va redevenir normal, et on va se réintéresser un petit peu au Hellfest qui se tient à partir d'aujourd'hui pendant 3 jours. Et j'avais envie de vous présenter un groupe qui sera programmé, me semble-t-il, demain, et que j'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter dans Check Me Load, parce que d'abord ils ont pas encore sorti d'album, mais pourtant c'est un projet très intéressant, donc je profite de leur passage au Hellfest pour faire un petit focus sur eux. Ce groupe, c'est Deadland Ritual, et en fait il s'avère que c'est pas vraiment un groupe, c'est un super groupe, le deuxième de l'émission. En tout cas, c'est un super groupe qui nous vient à la fois des États-Unis et de Grande-Bretagne, qui existe depuis très peu de temps, depuis 2018. Et en fait, ce super groupe, il réunit le bassiste Geezer Butler, donc ex-Black Sabbath, le guitariste Steve Steven, alors qu'il est connu pour avoir joué avec Billy Idol, avec Michael Jackson aussi dans un autre genre, le chanteur Frankie Perez, qui tourne actuellement avec Apocalyptica, mais qui a aussi chanté sur le premier album de Scars on Broadway, et puis aussi l'ex-batteur des Guns N' Roses, Matt Sorum, que j'évoquais tout à l'heure quand j'ai parlé de Hollywood Vampires. C'est d'ailleurs lui, hein, Matt Sorum, qui est à l'origine de ce projet, pour lequel il a quand même réussi à recruter cette légende du rock et du hard rock qui est Geezer Butler. Il faut dire que au moment où ça s'est mis en place, lui, il était fraîchement en retraite de Black Sabbath, et c'est pas parce qu'il est plus dans Black Sabbath qui peut plus faire de musique. Preuve en est avec ce nouveau projet qui nous propose un hard rock aux accents bluesy. Alors pour l'instant, le combo a sorti que 2 singles. J'imagine qu'il y a un album qui est certainement en préparation. Et en attendant, Deadland Ritual s'offre quelques dates de concert, dont cette prestation qui est assez attendue au Hellfest, où le public va découvrir quelques compos, mais sera aussi invité à voyager à travers la discographie respective de chacun des membres. Donc il peut y avoir des choses vachement sympas. Alors pour découvrir Deadland Ritual en live, faudra être demain, samedi 22 juin, aux alentours de la main stage à 16h45, hein, ça va jouer en plein après-midi. Et puis, en attendant, et pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'aller au Hellfest, on va écouter le single Down in Flames. C'est le deuxième single du groupe qui est paru en décembre dernier. Tout de suite, on découvre donc Deadland Ritual sur Back FM. Over, dazed and confused. There's no use.
there to save you now. No one's there to save you. You go down in flames to the river. Can't believe it's shattered now. Can't believe it's shattered.
Down in Flames à l'instant par Deadland Ritual avec à la basse Monsieur Geezer Butler de Black Sabbath, s'il vous plaît, avec à la batterie Matt Sorum qu'on a connu chez les Guns à la grande époque, et puis sans oublier Steve Steven à la guitare, et puis au chant Frankie Perez, du bon hard rock un peu bluesy. Donc on a hâte que le groupe nous sorte un album pour en découvrir un peu plus sur leur style, sur leur univers. Et puis donc on les retrouve demain au Hellfest sur la main stage à 16h45 pour justement présenter ces quelques compos ainsi que des morceaux issus de la discographie de chacun des membres. Et puis c'est déjà l'heure de rendre l'antenne, ça passe vraiment très très vite décidément. Alors on a débuté l'émission tout à l'heure avec un groupe de stoner punk, le jeune trio norvégien Bokassa. Et bien on va se quitter avec ceux qui sont probablement à l'origine du genre, puisque c'est Fu Manchu que j'ai choisi pour clore cette émission et cette toute mini sélection de choses à ne pas manquer durant le Hellfest. Ouais, je vous en ai fait que deux cette année, c'est comme ça. Et comme vous le savez, Check Milot se termine toujours avec soit la rubrique Sortez Cover, soit la rubrique 20 ans dans tes dents. Et bien aujourd'hui, c'est la fête de la musique, c'est aussi la fête du métal, donc exceptionnellement, ce seront nos deux rubriques qui seront réunies, puisqu'on va écouter une reprise de Fu Manchu, donc pour la rubrique dans vos cultes, qui est extraite d'un album paru en 99 pour la rubrique 20 ans dans tes dents. Et Fu Manchu embrasera donc la scène Valley ce soir, puisqu'il sera la tête d'affiche de cette scène plutôt stoner, doom, de ce premier jour. Alors avant de s'intéresser à la chanson que j'ai sélectionnée et de vous la révéler, quelques mots sur le groupe. C'est en Californie, dans le comté d'Orange, que naît Fu Manchu en 85. À l'époque, il s'appelle Virulence, il joue du punk hardcore, et c'est en 90 qui va donc prendre ce nom de Fu Manchu et amorcer un virage vers cette fusion punk et stoner rock qui va faire son succès. Le groupe publie son premier album No One Rise for Free en 94, mais ça va être les deux suivants, Daredevil en 95 et In Search of en 96, qui vont définir les contours de ce rock puissant, lourd mais également très entraînant. Un style assez différent de la plupart des autres groupes issus de la même mouvance à l'époque, et ces deux albums vont permettre à Fu Manchu de se forger une solide réputation live, et puis aussi d'obtenir un véritable statut de cult band. Et puis en 97, le groupe enfonce définitivement le clou avec The Action Is Go, un quatrième album à la production particulièrement puissante et soignée, que l'on doit en partie à l'arrivée de l'ex-Cuse Brand Bjork à la batterie. À ce jour, Fu Manchu a sorti 12 albums studio, le dernier en date c'est Clone of the Universe, et il est paru il y a un an. Mais c'est un extrait d'un autre album culte des Californiens qu'on va écouter. Il s'agit d'un extrait de Heat in Dust, leur cinquième album paru le 19 février 99, qui a ensuite été réédité quelques années après avec une autre pochette et un autre tracklisting. Un album qui, dans son édition originale, débutait par la reprise du mythique Godzilla du non moins mythique Blue Oyster Cult, le culte de l'huître bleue, un groupe new-yorkais né en 67, qu'on peut considérer comme faisant partie des pionniers du hard rock, qui a sorti durant les années 70 plusieurs disques classiques cultes dont Spectre, qui est arrivé dans les bacs en novembre 77 et qui débute par cette fameuse chanson Godzilla qu'absolument tout le monde connaît. Pourtant, lorsque le morceau va paraître en single, ce sera loin d'être un gros succès commercial. Ça va être grâce aux radios qui, elles, vont repérer son fort potentiel que la chanson va devenir un tube, puisqu'ils vont commencer à la diffuser très régulièrement. Donc, avec le temps, Godzilla va devenir un classique du rock, mais également un des trois morceaux les plus célèbres de Blue Oyster Cult. Les deux autres, ce sont, vous l'aurez certainement deviné, Don't Fear the Reaper et Burning for You. La chanson Godzilla, qui fait bien sûr référence au fameux monstre de la saga cinématographique débuté dans les années 50, fait désormais, tout comme les films, partie de la culture populaire. Alors on peut l'entendre dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo. Pour les films, on l'entend par exemple dans Detroit Rock City, pour les séries dans Nip Tuck. Mais par contre, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on l'entend dans aucun des films Godzilla. Si, sauf le dernier qui est actuellement en salle et dont la bande originale propose une version de la chanson interprétée par Serge Tankian, le chanteur de System of a Down. Mais nous, c'est bel et bien la version revue et corrigée à la sauce stoner punk de Fu Manchu que l'on va écouter sans plus tarder. Bah, juste le temps pour moi de rappeler que Fu Manchu va se produire tout à l'heure à minuit sur la Seine-Vallée du Hellfest. Sur ce, je souhaite un bon festival à tous ceux qui ont la chance d'être là-bas à Clisson. Et puis pour les autres, bon week-end, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous.